contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Clémentine, Jean-Luc,
bonjour.
David,
bonjour
à vous.
Bonjour Stéphane Bern.
Et bonjour à celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire, Gavin Clemente-Ruiz.
Bonjour à vous.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter. En compagnie de personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, on réunit... Attendez, mes fiches ne sont pas dans le bon ordre. Je me suis emmêlé des pinceaux. Ah oui, bah c'est justement ça, eux aussi. Le thème, c'est ils se sont emmêlés des pinceaux. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi avec des peintres qui se les sont emmêlés pour de vrai. À commencer par trois frères qui ont signé toutes les toiles d'un seul nom, Le Nain. Antoine, Louis et Mathieu Le Nain ont travaillé de concert, si bien que les historiens de l'art peinent à savoir qui a vraiment fait quoi. Puis, pour eux aussi, certains ont hésité à dire quelles mains avaient réalisé les toiles qu'ils avaient devant les yeux. Il faut dire qu'ils ont parfois peint à deux et que la fille a suivi les pas et les traits de son père. Je vous raconte Orazio et Artemisia Gentileschi. Et après les morts, les vivants. C'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 hein, le portrait de notre troisième personnage du jour. Un duo difficile à dissocier, un couple même qui se mélange les pinceaux aussi.
Oui, et connaissant votre esprit mal placé, je précise donc qu'on parle aussi de peinture avec Pierre et Gilles, qui photographient et peignent par-dessus leurs portraits, réalisant ensemble des œuvres qu'on peut qualifier d'érotico-kitsch. Je ne sais pas si vous avez été un modèle.
J'adore, moi je suis très fan. Non, j'ai jamais été un modèle, non, non, franchement. Non.
Vous seriez magnifique.
Des gens un peu jolis en général.
Ah, mais vous êtes très jolis déjà.
Non, non, très âgés surtout.
Non.
Eux sont nos œuvres d'art à nous, ni érotico ni kitsch, quoique...
Pas mal.
Merci.
D'abord, celle qui nous entraîne dans... Bah, vous avez toujours rêvé d'être un sex symbole, David.
Ouais, bon, sans grande réussite.
Ce qui est dans votre phrase, c'est vous avez rêvé. Ça veut dire que vous ne pensez pas que c'en est un.
Le
doute s'installe.
Voilà. D'abord, celle qui nous entraîne, je commence par les dames, celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, Clémentine, de qui ou de quoi nous parlez-vous?
Eh bien, d'un homme qui a été connu d'abord pour son coup de pinceau, mais surtout aussi pour son coup d'archer, un génie de la peinture, un virtuose du violon. C'est lui qui a donné naissance à l'expression proverbiale avoir un violon dingue. Alors, je suis allée à la recherche de ce violon. J'ai retrouvé le violon dingue. Il est à Montauban et c'est un instrument qui recèle un certain nombre de surprises, vous verrez.
Ah, très bien, ça m'intéresse. Lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne. C'est David Castello-Lopez. On remonte aux origines de quoi aujourd'hui?
Eh bien, du jour qu'on est.
Ah, et vendredi 13.
Exactement. Enfin, pas les origines du jour, mais les origines de ce qu'on y attache.
Ah. Hein,
de est-ce que ça du porte chance,
13,
est-ce que ça porte malheur.
Du vendredi.
Tout ça, voilà. Exactement.
Tout ça est très chrétien.
Il y a du christianisme, mais pas que. Il y a pas du que. Paganisme un petit
ah,
peu
oui.
dedans.
Oui.
Il y a des films d'horreur aussi.
Oui. Oui.
Vendredi 13.
Les origines, c'est dans toute fin d'émission, juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïe, quelle époque, mais aïe, quelle époque.
Ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte au 17e siècle et on part à la découverte, avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, d'une drôle de compétition qui se déroule sur l'île de Pâques.
Exactement, c'est le culte du Manutara. C'est le nom de l'hirondelle de mer et on va découvrir l'histoire de l'homme oiseau.
Très bien.
Je crois que c'était quelqu'un qui était en balayé. Manutara.
Vous confondez avec Manureva aussi.
Oui, aussi Manureva.
Mes aïeux, quelle époque. Ce sera tout à l'heure, vers 17h40.
Est-ce que Stéphane, vous êtes bien certain de tout avoir dit? Autrement dit, êtes-vous dans la certitude de ne rien avoir oublié?
Et maintenant que vous le dites, je crois que j'ai oublié d'aller chercher un verre d'eau. J'aime bien avoir un verre d'eau à côté de moi quand je commence mes récits historiques.
Oui, bien sûr, mais non, je veux parler de ça. Écoutez. Burn to be alive. Alors, Burn to be alive, hein, pour ceux qui découvriraient l'émission, c'est un quiz où Stéphane est opposé à Clémentine. Des questions historiques sont posées, des fois, on a le droit à des réponses.
Il n'empêche, j'ai quand même oublié mon verre d'eau. Vous avez quelques secondes pour aller m'en chercher un.
Je suis vraiment votre mignon.
Oui, bah non, on va exagérer non plus. Allez, je vous raconte maintenant nos premiers personnages du jour qui sont emmêlés des pinceaux.
Europe 1,
Historiquement vôtre.
Le récit. Stéphane Bern.
C'est l'un des jeux préférés des historiens de l'art, reconnaître le pinceau d'un artiste. Alors quand trois frères s'amusent à peindre ensemble, à mélanger leurs pinceaux et à signer de leur seul nom de famille, le jeu devient très difficile, voire impossible. Je vous raconte l'un des plus grands mystères de la peinture depuis plus d'un siècle, Antoine, Louis et Mathieu Le Nain. Depuis la Renaissance, certains peintres écrivent leur nom au pinceau dans un coin de la toile. Plus qu'une simple signature, c'est une manière d'affirmer leur personnalité en tant qu'artiste. Sur des tableaux d'un réalisme saisissant datant du XVIIe siècle, on devine alors un nom, le Nain. Ce n'est pas un surnom, mais un nom de famille. Le problème, c'est que trois des fils de cette famille sont peintres. Sans prénom, impossible de les distinguer. Alors comment savoir à quel le Nain appartient les mains qui ont fait naître ces chefs-d'œuvre ? Le mystère les entoure dès leur entrée dans la vie. Antoine, Louis et Mathieu Le Nain sont nés à Laon, en Picardie. Quand ? On ne sait pas exactement. Mais on situe ces jours bénis pour leurs parents et pour la peinture au tout début du XVIIe siècle. Leur père, sergent royal, possède des terres, des fermes et des vignes. Des paysages de leur enfance qui se retrouveront souvent dans leurs œuvres des trois frères. Antoine, Louis et Mathieu sont formés par un artiste étranger, sans doute nordique, de passage dans la région, avant de rejoindre Paris. Antoine devient maître peintre au faubourg Saint-Germain-des-Prés. Comme ses deux frères sont compagnons, c'est lui le chef de l'atelier. Mais en réalité, la hiérarchie n'est que juridique. La cohésion entre eux est totale. Les frères vivent ensemble, rue Princesse, et travaillent ensemble, main dans la main, s'échangeant les pigments broyés et les pinceaux. Dans les années 1630, leur réputation s'établit et grandit vite. Mathieu et Louis décorent la chapelle de la Vierge au couvent des Petits Augustins. Antoine reçoit la commande du portrait du prévôt des marchands et des échevins de la ville de Paris, destiné à la grande salle de l'hôtel de ville. Et Mathieu devient, lui, peintre ordinaire de la ville de Paris. Leurs plus grands chefs-d'œuvre, ils les réalisent entre 1640 et 1648, avec des portraits, des scènes religieuses ou mythologiques, des récréations d'enfants ou de grands seigneurs. Leur production est très variée. Les représentations de la vie paysanne sont peut-être leurs plus belles compositions. Des paysans nous fixent du regard avec une puissance d'émotion indescriptible. Humbles, figés, mélancoliques, ils semblent vouloir nous dire quelque chose. Sur une toile dont il faut mentionner l'audace du clair-obscur intitulée La tabagie, on peut lire en bas à droite l'inscription suivante « Le Nain, Fécit, 1643 ». On a le nom, la date, et Fécit qui vient du latin et signifie « la fée ». Le Nain l'a fait en 1643. Oui, mais quel Le Nain ? Le tableau a effectué un incroyable parcours, passant des collections du cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon, au musée du Louvre. On pense alors qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre de Louis. Eh bien, finalement, non. C'est un travail d'équipe. Grâce à leur œil d'expert, mais aussi à une technique moderne, la réflectographie infrarouge, les spécialistes ont découvert que l'œuvre aurait été laissée inachevée par Louis et terminée par Mathieu. Et c'est ce dernier qui aurait transformé ce portrait collectif en scène de genre pour le vendre plus facilement. Mathieu a ajouté un personnage fumant à gauche et une pipe dans la main de l'homme au premier plan. Le tour est joué. Le tableau devient une tabagie. Nicolas Milovanovitch, commissaire de l'exposition consacrée aux frères Le Nain au Louvre-Lens et qui sera avec nous dans quelques minutes, raconte que c'est une méthode que l'on retrouve souvent chez eux. Un frère commence à peindre et l'autre termine le travail. Au fil du temps, les spécialistes ont su différencier leur génie artistique. Antoine est un portraitiste et miniaturiste. Louis est le seul des trois frères dont la peinture démontre un véritable sens du paysage. Et Mathieu réalise des portraits de groupe et des peintures d'histoire. Les Le Nain sont en vogue de leur vivant. Ils sont reconnus, mais pas tellement à leur juste valeur. On les prend pour des peintres de bambochade, ces scènes de gens hollandaises ou italiennes qui montrent des petites gens dans des situations rigolotes. Certains ont vu une bambochade dans leur tableau « Les petits joueurs de cartes ». Il en existe deux versions. L'une est au Louvre et l'autre dans les collections de la couronne britannique. La scène qui montre des enfants faussement sérieux, prêts à rire. Le premier à avoir analysé le tableau hésite à l'attribuer à Antoine ou Louis. Nous y trouvons des morceaux d'un style supérieur, où l'on peut reconnaître la main de Louis. Mais nous croyons qu'Antoine devait aimer à peindre des enfants pareils à ceux-ci étalant leur naïve et gauche espièglerie, montrant leur bouche grande ouverte, conservant malgré tout un air grave et expressif. Un air grave et expressif, voilà ce qu'il faut retenir. Les résumer aux bambochades, c'est oublier la puissance du réalisme de leurs œuvres qui les place aujourd'hui au rang de grands maîtres. Les trois frères sont reçus en 1648 à l'Académie royale de peinture et de sculpture nouvellement fondée. Trois mois plus tard, Antoine et Louis décèdent brutalement, sûrement d'une maladie infectieuse. Mathieu, qui a toujours vécu et peint avec eux, se retrouve seul. Il continue de peindre, mais voilà que l'ambition le dévore. Mathieu a hérité de tous les biens d'Antoine et Louis, qui n'ont jamais eu ni femme ni enfant. L'artiste a investi dans la pierre à Paris et veut grimper les échelons de la société. Fait extrêmement rare pour un artiste, il devient chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Le problème, c'est qu'il faut être né noble et non pas dans un vignoble pour prétendre à ce titre prestigieux. Résultat, faute de pouvoir prouver sa noblesse, il est rayé de la liste et jeté en prison en 1665. Mathieu Le Nain meurt à Paris vers l'âge de 70 ans, puis sombre dans l'oubli. Seul ? Non. Avec ses frères, puisqu'ils ont toujours tout fait ensemble. Leurs tableaux n'intéressent plus personne. On leur préfère la grande peinture d'histoire italienne. Un siècle plus tard, Le Nain reste alors un fantôme insaisissable. Trois fantômes en réalité, mais avec un seul nom de famille. Mais ça, tout le monde ne le sait pas encore. Certains pensent qu'ils sont deux, et attribue des œuvres au Le Nain père et fils. Bien qu'on ne sache pas encore les identifier, on reconnaît leurs qualités. En témoigne l'incroyable parcours d'un tableau, La Forge, qui participe à leur redécouverte. Il intègre la collection du prince de Conti, frôle de peu les collections royales et termine finalement sa course au Louvre, où Cézanne et Delacroix viendront l'admirer. À sa vue, Sainte-Beuve est subjuguée. Il écrit en 1863 « Leur tableau chef-d'œuvre et qui suffit à consacrer leur nom est celui de la forge qu'on voit au Louvre. Ces personnages ne posent pas, mais ils vous regardent. Il semble que vous entriez brusquement dans la maison et que toutes ces bonnes gens, sans sortir de leur quiétude ni de leur caractère, tiennent les yeux fixés vers vous, le vieux père et un autre enfant qu'il a près de lui, regardent ailleurs et ont l'air distrait ou occupé par je ne sais qui ou je ne sais quoi qui est de côté. Il y a même des enfants encore, celui qui tire le soufflet, qui a le regard sans but et un peu étonné. Il conclut en disant « Le mot de chef-d'œuvre n'est pas de trop ». Depuis plus d'un siècle, les historiens de l'art reconstituent les pièces du puzzle de ces chefs-d'œuvre et cherchent à percer le mystère de ces trois frères, de ces trois peintres, qui finalement n'ont presque toujours fait qu'un.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Antoine, Louis et Mathieu Le Nain, avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un conservateur qui a tenté de percer leur mystère. Bonjour Nicolas Milovanovitch.
Bonjour Stéphane.
Vous êtes conservateur en chef au département des peintures du musée du Louvre et vous avez été commissaire, je le mentionnais, dans le récit de la rétrospective qui s'est tenue au Louvre-Lens en 2017, le mystère Le Nain, dédié aux trois frères. Cette exposition, c'était la première depuis près de 50 ans. C'était le temps qu'il fallait pour lever le mystère de l'attribution de leurs œuvres, j'imagine. Ou est-ce que, à votre avis, il faudra encore plus de temps ?
Il faudra plus de temps. Le mystère n'est pas percé encore, mais le fait est qu'on a une exposition Le Nain tous les 50 ans, donc 1934, 1972, donc 2017, parce qu'il y a peu d'œuvres, comme Vermeer. Vermeer, il y a 37 tableaux connus, donc c'est difficile d'en avoir suffisamment pour organiser une exposition. Et les frères Le Nain, c'est pareil, il y en a un peu plus, il y en a 57. Mais il n'y en a pas assez pour qu'il y ait des expos souvent. Donc, il faut être là. La prochaine, ça sera peut-être dans 50 ans.
Je ne sais pas si je serai là. Comment avez-vous poursuivi vos investigations ? J'ai évoqué la réflectographie infrarouge. Alors, dites-nous à quoi ça sert et comment ça fonctionne ?
La réflectographie infrarouge, c'est intermédiaire avec la radio. C'est-à-dire la radio permet de voir ce qu'on ne voit pas, la réflectographie infrarouge aussi, mais met en évidence des choses que la radio ne met pas en évidence. Et donc, certains personnages, certains changements de partie. Et en fait, d'une manière générale, on constitue tout un dossier scientifique avec aussi des prélèvements, des analyses de pigments. Les frères Le Nain ont notamment une manière de poser les couches de préparation typiques, avec une première couche rouge, avec du minium, une seconde couche grise à la cérule. Et donc, si on a vraiment cela, ça peut confirmer l'attribution.
Clémentine ?
Oui, Stéphane nous a raconté que les frères signaient simplement leur nom de famille sans prénom. Mais est-ce que l'on pense que Toutes leurs œuvres, par conséquent, ont été signées, enfin non pas signées, mais réalisées par les trois jusqu'à la mort des deux premiers.
Alors là, on est au cœur du mystère. C'est l'un des mystères. Effectivement, ils signent toujours le nain. On rêverait de trouver un prénom. On n'en a pas. Alors, il y a aussi, donc l'étude scientifique nous a montré que certains tableaux sont à plusieurs mains. Aussi, l'étude de l'œil du connaisseur, on voit qu'il y a des différences de facture, différences de technique. Mais il y a aussi des tableaux qui sont tout à fait cohérents, qui sont clairement d'un seul des frères. Et donc, du coup, l'enjeu, c'est de faire la part entre toutes ces différentes manières de peindre, c'est-à-dire les tableaux à plusieurs mains, d'un côté, les tableaux du groupe de chacun des trois frères, Louis, Antoine et Mathieu. Et le but d'une exposition comme celle du Louvre-Land, c'était vraiment ça. Donc d'arriver à avoir ces différents groupes et donc de distinguer les mains.
Mais on n'a pas idée que, par exemple, Mathieu ait repris toutes les œuvres qu'ils avaient en commun.
Qu'est-ce qu'il a le plus bossé, c'est ça, on se demande. Oui.
Pour faire des remords, enfin des, vous savez, des
Oui. Mais c'est ce qu'on constate. On constate que les œuvres les plus retouchées sont retouchées par Mathieu, qui est le frère survivant. Oui. Et qui, vous savez, c'est inouï de trois frères qui vivent ensemble, qui habitent ensemble et qui peignent ensemble et qui ont du succès. Et lui, il a bénéficié, vous l'avez dit, de ce succès. Il a récupéré l'argent, mais aussi les tableaux. Et donc, certains, il les a retouchés pour les vendre, tout simplement. Mmh. Donc, on a beaucoup de tableaux d'un des deux frères qui sont morts en 48, Louis et Antoine, retouchés par Mathieu.
On a l'impression que les frères Lenain sont venus à la peinture un peu par hasard. Louis et Mathieu étaient d'ailleurs compagnons, donc plutôt des artisans. On sait comment ils sont tous venus à la peinture ?
Ben non, ça, c'est aussi l'un des mystères. Il y a beaucoup de mystères Lenain. C'en est un parce qu'ils viennent d'un foyer Laon, la ville de Laon, qui a eu une heure de gloire au Moyen-Âge, mais qui, au XVIIe siècle, eh bien, est un peu endormi, hein, disons-le, et n'est pas en tout cas un grand foyer de la peinture. Par ailleurs, leur milieu, vous l'avez dit, c'est un milieu de vignerons ou de petits officiers. Leur père est sergent royal au grenier à sel et surtout vigneron. Et donc, c'est improbable. Donc, comment ont-ils été formés ? Quelle est l'origine de leur génie ? On ne sait pas. Les sources anciennes nous disent qu'il y a un peintre étranger qui les a formés. Mais qui est ce peintre étranger ? Vous imaginez, Stéphane, que là, l'esprit gambade, on imagine des noms, Philippe de Champagne peut-être, Abraham de Vries, il y a des hypothèses, mais pas de certitude.
Et Clémentine ?
Oui, ils ont repris le code du clair-obscur. Est-ce que on sait si oui ou non, ils ont été influencés par Caravage, dont nous avons parlé ici même avec vous, il y a quelques semaines ?
Alors évidemment, tout le monde au XVIIe siècle est influencé par Caravage. Mmh. Ça, l'influence est gigantesque. Alors, de là à dire qu'ils sont allés à Rome, probablement pas, mais il n'était pas nécessaire d'aller à Rome. Il y avait beaucoup de peintres caravagesques en France, en Europe. Les tableaux circulaient. Et effectivement, on constate que, notamment chez Mathieu, donc le frère survivant, il y a des tableaux très caravagesques. Hein. On peut parler des joueurs de cartes, donc du musée Granet d'Aix-en-Provence, qui est un tableau qui a fasciné Cézanne. C'est un tableau caravagesque. Donc, il y a cette influence du Caravage, mais de manière indirecte, avec mêlée à l'influence nordique, c'est-à-dire l'art de la touche. Hein. La touche, la facture, l'empattement ou la fluidité, au contraire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans leur art et qui est plutôt nordique. Donc, ils mêlent l'influence caravagesque et l'influence nordique.
Ce qu'on retrouve dans leurs toiles, c'est aussi l'influence de leurs origines paysannes. Qu'est-ce que leurs peintures nous apprennent sur eux, sur leur histoire, sur leur vie ?
Alors ça, c'est fascinant. Quand on regarde ces tableaux, on a des belles images des paysages du Lannoy, aussi de l'Île-de-France au XVIIe siècle. Donc, vous voyez, ces vastes plaines, des petits bocages, des petites fermes isolées. Les maisons elles-mêmes, c'est des maisons vernaculaires, très touchantes. Parfois même, on a des visions de crottes. C'est des grottes troglodytiques qui existent encore, d'ailleurs, au sud de Laon. Et puis, il y a les paysans eux-mêmes, les personnages avec tous les âges, des personnages âgés, particulièrement forts et touchants, des enfants, des grands peintres de l'enfance, et même des animaux, ces grands peintres d'animaux, on l'oublie, mais on a par exemple l'âne, un animal paysan s'il en est, c'est un tableau qui est à l'Ermitage, qui est juste merveilleux, un des grands tableaux animaliers du 17e. La vache aussi, qui est dans la collection David Veil, récemment décédé, qui est un chef-d'œuvre qu'on rêverait d'avoir au Louvre. Donc il y a ces paysages, il y a cette vision de la campagne française au 17e siècle.
Si on entre dans la psychologie des personnages, lorsque Louis-Antoine meurt, Mathieu, je le disais, semble avoir un désir d'élévation sociale et d'être dévoré d'ambition. Ça veut dire qu'il se sentait à l'étroit avec ses deux frères.
Je dirais que c'est moins sympathique, pour autant qu'on puisse juger des trois frères, parce qu'il continue de peindre après la mort des deux autres. Il a leur argent, il a leur tableau, mais peu à peu, il s'écarte de la peinture. Son grand objectif, c'est l'ascension sociale, c'est-à-dire la noblesse. Et donc, par exemple, il s'appelle lui-même, il arrête de s'appeler le nain, il s'appelle le sieur de la Jumelle. Voilà, pour faire noble, alors c'est quoi la Jumelle ? C'est une ferme familiale près de Laon. Donc, vous voyez, c'est pas brillant. C'est un peu comme, vous savez, dans les femmes savantes, monsieur de la souche, parce qu'il a un bout de bois. bois avec quelques troncs d'arbres. Donc vous voyez, c'est une manière de d'oublier la peinture, parce que la peinture l'empêche de devenir noble et même de conserver l'ordre de Saint-Michel. Dans les sources d'archives, on voit que lorsqu'on lui retire l'ordre de Saint-Michel, ce que vous avez raconté, eh bien il y a marqué en marge est peintre. Vous voyez, c'est infamant d'être peintre, c'est-à-dire ça ne permet pas d'être noble.
Oui. Les frères Lenain semblent avoir été redécouverts seulement à la fin du XIXe siècle. J'ai d'ailleurs évoqué le témoignage de Sainte-Beuve sur le tableau La Forge. Quels aspects de leur art ont soudainement, comme ça, éveillé l'intérêt ?
Mais la beauté, Stéphane, c'est-à-dire eux-mêmes étaient complètement oubliés. Effectivement, la grande historiographie française, Félibien, les oublie. Il y a trois lignes chez Félibien pour dire qu'ils n'ont pas d'intérêt car ils peignent des sujets bas. Mais les tableaux sont tellement beaux qu'ils entrent dans des collections prestigieuses. Et pendant tout le 18e et le 19e, ces chefs-d'œuvre absolus des frères Lenain ont fasciné, ont aimanté le regard. Et donc, le mystère a peu grandi, si vous voulez, et on a voulu savoir qui ils étaient. Et là, c'est le travail des historiens d'art, et en premier lieu de Champfleury, qui était aussi originaire de Laon, et donc il a publié la première monographie en confrontant les tableaux aux sources d'archives, et peu à peu, il y a eu une résurrection des Lenain.
Pour terminer, Nicolas, est-ce que vous poursuivez encore vos recherches sur les frères Lenain et leurs toiles ? Est-ce qu'il y a de nouveaux mystères susceptibles d'être relevés ?
Ah non, bien sûr, le mystère continue et donc les recherches continuent. Chaque nouveau tableau qui réapparaît est extrêmement précieux et il y en a qui réapparaissent des endroits les plus inattendus. Vous voyez, récemment, il y en a eu un réapparu dans une brocante. Vous voyez, c'est le Saint-Jérôme.
Incroyable.
Que je piste, qui s'est vendu ensuite très très cher chez Sotheby's à New York. Et donc on aimerait bien l'avoir. On l'a raté pour le Louvre. Peut-être l'aura-t-on un jour. D'autres réapparaissent dans des greniers. C'est un tableau qu'on a eu, le reniement de Saint-Pierre, réapparu dans un grenier en Lorraine, à Lunéville, vendu à Nancy et ensuite acquis par le Louvre. Donc, vous voyez, il faut pister ces tableaux. Et si vous ou les auditeurs qui nous écoutent, si vous regardez dans vos greniers, vous avez peut-être un Lenain, on ne sait pas. Ça peut, ils réapparaissent en tout cas régulièrement.
Ils sont tous signés ou pas ?
Non, ils ne sont pas tous signés. Une petite partie est signée. Mais lorsqu'ils ne sont pas signés, par le style, par oui. l'étude scientifique, on peut bien sûr les identifier.
Enfin, si tout le monde vous apporte comme ça des scènes de genre paysanne, vous allez...
Voilà le cochon dans la ferme de mon grand-père, et je pense que c'est un Lenain.
Qui sait ? Il faut toujours jeter un coup d'œil.
Absolument. Merci beaucoup Nicolas Milovanovitch d'être revenu avec nous sur ces frères qui ont travaillé de concert et créé l'un des plus grands mystères de l'histoire de la peinture. Je rappelle déjà le livre que vous signez sur cette fratrie de peintres, Les frères Lenain, bon génie de la sympathie humaine, toujours disponible aux éditions Faton. Également l'exposition dont vous êtes le commissaire sur un autre artiste majeur du XVIIe siècle, Poussin et l'amour, qui s'y est actuellement au musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est jusqu'au 5 mars prochain, faut vous dépêcher.
Oui, je vais prendre mon billet.
Voilà, s'il vous plaît.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre.
Exactement, et aujourd'hui, je pense que mon indice musical va vous glacer le sang.
Ah ! C'est un truc de...
C'est pas
de crime.
C'est pas avec Dustin Hoffman, là où ils sont dans une assaillis dans une baraque, non pardon.
Ah, c'est fort ça. Mais c'est pas du tout ça. Visiblement, vous aimez pas les films d'horreur.
Mais non, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Non, le Silence des Agneaux, c'est
non,
pas ça, non.
Non, c'est
L'Exorciste.
C'est L'Exorciste. Oui. À quel
Le problème, c'est que Stéphane, quand, au bout d'un moment, il trouve comme ça, miraculeusement, vous avez... je sens qu'il est une oreillette.
Non, mais si. On l'a tous.
Ouais.
Mais
si vous voulez, on l'a pas tous.
On a tous une oreillette, mais. En même temps, vous savez, tout d'un coup, l'inspiration
oui,
vient.
Oui, bien sûr. C'est ça.
Et là, je vais vous parler de L'Exorciste de Strasbourg.
Moi, je préfère L'Exorciste de Francfort.
Exactement, on est d'accord. Non, je vais vous parler de ce film mythique de William Friedkin.
Elle l'avait pas.
Si, elle est très très bonne.
Merci.
Elle est très bonne.
Merci beaucoup.
C'est pas vous, c'est Stéphane.
Ne vous battez pas. Avant cet affrontement, je lui laisse la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, on reste dans la peinture avec un peintre qui maniait aussi bien les pinceaux que l'archet et a laissé son nom à une expression, ingre et son violon.
Mais avouez que c'est quand même extraordinaire d'avoir pu briller à ce point dans ces deux arts majeurs. Et en fait, c'est le père d'Ingres, qui était sculpteur et musicien, qui lui a enseigné en même temps le dessin et le violon. Et toute heure qui n'était pas consacrée à la peinture était consacrée à la musique. Et c'est d'ailleurs grâce à la musique Quingre a pu gagner un peu d'argent pour payer ses cours à l'École des Beaux-Arts de Toulouse. Et à cette époque, il intègre, alors qu'il est déjà peintre, hein, il intègre pendant 2 ans l'orchestre du Capitole en qualité de second violon. Magnifique. Liszt, qui a entendu Ingres jouer la sonate en la mineur de Beethoven, a pu dire avec quelle religieuse fidélité il rendait la musique de Beethoven, avec quelle fermeté pleine de chaleur il maniait l'archet, quelle pureté de style, quelle vérité dans le sentiment. Rendez compte, ça c'est Liszt qui parle de Ingres, ce peintre majeur, quand il jouait du violon. Cette présence de la musique, elle est constante dans l'œuvre d'Ingres, puisqu'il a réalisé des dessins des chanteurs de la chapelle Sixtine, qu'il a dû aller entendre à plusieurs reprises lorsqu'il séjournait à Rome. Ces odalisques ont souvent un instrument de musique. Et dans l'une de ses toiles, intitulée L'apothéose d'Homère, il a représenté Mozart et Gluck. Et lui-même disait qu'à côté de la peinture, le violon était l'art divin qui embaumait sa vie. Le violon est l'art divin qui embaume ma vie. C'est pas joli ça. Et précisément, alors venons-en à ce fameux violon d'Ingres. Est-ce qu'il existe ce violon et où est-il? Eh bien oui, il existe tout à fait. Et vous pouvez aller le voir dès à présent au musée Ingres-Bourdel de Montauban. Stéphane, vous y avez déjà été, j'imagine, pour me... Vous saviez très bien que c'était là-bas. Bon, Montauban étant la ville natale du peintre, il y naît le 29 août 1780. Alors, on sait qu'Ingres a possédé plusieurs violons d'Ingres. Bon, mais le musée de Montauban possède le seul dont l'appartenance à l'artiste est absolument certaine, puisque c'est lui, c'est Ingres en personne, qui a souhaité le léguer, ainsi que son étui et ses 2 archets. Ce violon d'Ingres, il a été étudié de fond en comble par le laboratoire de la Cité de la Musique à Paris. Alors, c'est un instrument assez particulier à plus d'un titre. D'abord, parce que c'est un instrument anonyme et on ignore tout du luthier. Et ensuite, c'est un instrument composite. Il a été constitué d'éléments provenant de différents violons. C'est un mélange de violons italiens, violons français du 18e et le tout totalement restauré au 19e. Mais pour le profane, que les profanes que nous sommes, l'information la plus intéressante reste à venir. C'est que le violon d'Ingres est un tout petit violon, dit violon de dame ou 7/8 de violon destiné aux enfants. Pourquoi ? Est-ce que c'était le violon favori d'Ingres, ce tout petit violon d'enfant? Eh bien, parce qu'Ingres lui-même était assez petit, il mesurait 1,53 m.
Vraiment?
Donc, le violon d'Ingres est un violon d'enfant. C'est pas beau, ça? Ça vaut la peine d'aller à Montauban. Alors, Ingres a laissé, d'autant qu'il a laissé à sa ville natale, c'est toute son œuvre, en tout cas des 4507 dessins de sa main, ce qui est absolument unique et exceptionnel, parce que rappelons qu'Ingres fut l'un des plus grands dessinateurs de tous les temps, à l'instar d'un Léonard de Vinci ou d'un Raphaël. Donc vous pouvez voir ses dessins à Montauban, vous pouvez voir des tableaux et d'autres objets de collection, par exemple son fauteuil préféré, un gros fauteuil jaune Second Empire dans lequel il devait de temps en temps s'accorder un peu de repos, une très belle coupe qui lui fut offerte par ses élèves lorsqu'il fut nommé directeur de la Villa Médicis en 1825 et qu'il dut une nouvelle fois quitter Paris pour Rome. Et puis avec le violon tout de même, hein, parce qu'on parle de s'en mêler les pinceaux, là je vous ai plutôt parlé archer, mais la pièce la plus remarquable du musée est probablement le meuble à couleurs méticuleusement rangé. On y voit pinceaux, brosses et chiffons de l'artiste. Les tiroirs abritent encore des objets et différents produits, dont des sachets de poudre de garance que l'artiste utilisait pour fabriquer lui-même ses rouges. Alors, quand il était second violon à Toulouse, Ingres avait été très marqué par le concerto numéro 22 en la mineur de Viotti. Il avait souhaité, avant de mourir, réentendre cette mélodie qu'il avait tant aimée. Eh bien, il meurt en pleine gloire le 14 janvier 1867. On ne sait si on lui joua vraiment ce concerto de Viotti avant sa mort, mais une chose est sûre, ce jour-là, toutes les muses réunies devaient être à son chevet.
C'est beau, vous parlez comme Clémentine Portier-Kaltenbach. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, eh bien, c'est le moment de l'émission, vous le savez chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous Jean-Luc qui prenez la main pour le quiz Born to be Alive.
C'est vrai qu'on n'est jamais déçu dans ce quiz historique.
Non, je
dois vous avouer quelque chose Stéphane.
Oui, avouez.
J'ai souvent l'impression que c'est la chance qui guide vos pas et non votre culture. Mais après tout, c'est une tactique comme une
autre. C'est un mélange des deux, voyez-vous. Mais comme ce sont des questions souvent farfelues plus qu'historiques, la chance aide.
Oui, mais enfin, vous en faites pas. De toute façon, dans la victoire comme dans la défaite, vous m'étonnez toujours, Stéphane. Alors, jour. Jouons à ce jeu si connu partout en France pour les défaites de Clémentine, parce que je vous le dis tout de suite, Clémentine, vous allez perdre.
Hein. Ah bon ?
Vous avez été très insolente tout à l'heure. À la limite du désagréable, quand vous avez dit à Stéphane que vous aimiez bien sa blague et que vous m'avez, comme ça, rembarré. Hein, vous vous souvenez ? Écoutez bien. Et là, je vais vous parler de l'exorciste de Strasbourg.
Ah ! Moi, je préfère l'exorciste de Francfort.
Exactement, on est d'accord.
Elle n'avait pas.
Si, elle est très très bonne.
Merci beaucoup.
C'est pas vous, c'est Stéphane. Ah mais oui, c'est vous qui avez fait la blague en plus. Et vous savez ce qu'on dit, on ne prête qu'aux riches. Hein. J'ai pas l'habitude que vous fassiez de bonnes blagues, voilà, c'est ça.
Bah quand même,
c'est... Modérate et monstre en tome.
Excusez-moi, mais c'est son métier quand même.
Ouais, hein, visiblement, il faut que je change. C'est pas grave.
J'espère que vous sanctionnerez durement une telle impertinence.
Voilà. Vraiment, on va jouer, mais vraiment pour la forme, hein, parce que là, n'espérez rien, vous. Hein. Ah, d'ailleurs, on va commencer avec vous, Stéphane.
D'accord.
Hugo Boss adhère au Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands en 1931. Hugo Broch est une autre personne qui n'a pas grand-chose à voir avec Hugo Boss, encore que. Qui est Hugo Broch ou Hugo Broch ? Un aviateur de la Luftwaffe encore vivant ou le premier mort officier de la Waffen-SS de la Seconde Guerre mondiale ?
Et s'il avait 20 ans 40 ? 20 ans 40
C'est qu'il est 1920, c'est pas... Ouais. Il a 100 ans.
Il a 102 ans.
Oui.
Alors ?
Sinon...
C'est-à-dire le premier mort de la Luftwaffe ?
Non, de la Waffen-SS.
De la Waffen-SS.
Par contre, c'était un aviateur de la Luftwaffe encore vivant. Peut-être.
Oui. Non, alors, premier mort de la Waffen-SS, vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que...
Enfin, premier mort officiel.
Le caporal Peugeot qui a donné son nom à une rue de Paris, c'est le premier mort de la guerre de 14. Donc pourquoi pas ? Pourquoi le premier Waffen-SS n'aurait-il pas laissé son nom dans l'histoire ? Mais moi, je pense plutôt pour l'aviateur encore en vie.
Donner son
moi.
Nom... si vous voulez, premier Waffen-SS...
Non, c'est pas terrible, je suis d'accord. Moi, j'irais sur l'autre à votre place.
Moi, je dirais le pilote encore en vie. Là. Ah, ça serait
moi aussi, j'irais là-dessus, à votre place. Vous choisissez quoi donc,
le pilote.
Vous avez gagné.
Oh, bravo.
Oh, ouais. Mais ça me paraît très louche tout ça. Là, c'est quoi ces petits ricanements ? Oui. Il n'était pas d'accord. Il a dit, mais les hommes vivent pas aussi longtemps, mais c'est pas possible et tout.
Est-ce que j'ai posé des questions, mais après, j'ai dit, non, écoutez bien, vous n'êtes pas attentive à ce qu'on dit. J'ai dit, je rejette l'idée que ce soit le premier Waffen-SS mort.
C'est vrai.
C'est un as de la Luftwaffe, Hugo Broch ou Hugo Broch. Non seulement on lui a reconnu 81 victoires dans les airs, mais en plus il est toujours vivant. Centenaire, quand il a eu 95 ans, il a volé dans un avion de chasse monoplace britannique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mmh,
voilà, incroyable. Sachez que je suis peut-être pas drôle, mais je suis honnête, Madame Portier-Kaltenbach.
Oui, bon bah c'est bien, déjà ça.
Une question pour vous. Je ne sais même pas si je vais l'articuler, parce que je n'ai vraiment pas envie de vous aider. C'est en 1888 que Heinrich Hertz construit un appareil produisant des ondes radio, l'ancêtre du micro-ondes. Avant cette invention bien pratique, on utilisait des radiateurs chauffe-plat. Des radiateurs en fonte dans lesquels il y avait un petit placard en fonte où son plat pouvait rester au chaud. On appelait ça des radiateurs chauffe-plat.
Oui, bien sûr.
Vrai ou faux ?
Oui, absolument.
Je sais pas, vous préférez ne pas répondre ?
J'ai répondu, je dis oui.
Je ne vous entends pas, je suis désolé. J'entends rien. Bon, écoutez, on découvre la réponse.
Vous avez gagné !
C'est un point pour Stéphane, donc ça existe toujours. Allez sur frédéricmat.com. Comptez 3000 euros pour un modèle de 1910, à l'époque distribué par la CNR. La compagnie nationale des radiateurs.
C'est un objet très très malin, en effet. C'est
très,
de simplement d'interrompre les tuyaux au niveau central d'un petit radiateur en fonte pour y tenir au chaud les plats. Très très malin.
Exactement. Quel dommage que vous n'ayez pas eu la bonne réponse.
C'est bien que j'ai eu 2 points pour cette question difficile.
Stéphane, pour vous, peut-être pour marquer tout de suite le 3e point, je vous présente Bibon.
Bibon.
Bibon, B-Y-B-O-N. Il vivait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce fut très certainement le premier athlète à courir avec 3 autres camarades dans une course de relais. On le sait, car son bâton de relais est dans un musée. Dessus, il y a marqué « Bibon ». Vrai ou faux ?
Non, c'est faux.
Non mais j'en appelle aux auditeurs. Partagez mon indignation. Excuse-moi. Là ils sont là à se faire des petits ricanements. L'autre il entend toutes les réponses dans son oreillette. Non. Il a déjà trois points alors que j'avais une bonne réponse. Rien. Oh rien. Ah oui, on dirait le petit Nicolas
vous,
au fond
de
la classe.
Vous en appelez aux auditeurs, mais moi par rapport à vous j'en appelle à la tendresse comme Michel Thor, hein. Comme vous serez aimable.
Je connais pas.
Vous connaissez pas Michel Thor?
Si,
vous
si, si bien. Je connais Michel Thor.
Alors vous répondez.
Moi je dirais que. Il n'y a pas son nom sur un bâton.
Il n'y a pas de son nom sur un bâton, on vérifie quand même.
Vous avez encore gagné.
Mais qu'il est fort celui-là. Mais c'était pas loin, car Bibon ou Bibon était haltérophile. Une pierre est exposée au musée archéologique d'Olympie. Elle fait 143 kilos et dessus, il est écrit « Bibon m'a soulevé au-dessus de sa tête d'une main ».
Incroyable.
143 kilos.
Ouais. Oui,
je ne sais pas comment il a fait, à mon avis c'est assez.
D'une après. Main.
Mais enfin, en tout cas, c'est la légende. Une question pour vous, Clémentine. Une question qui va peut-être nous en dire beaucoup plus sur votre nature et peut-être expliquer pourquoi vous êtes aussi agressive. On va vous parler de l'exorciste.
Non mais ça, on vous en dira pas du tout sur ma nature agressive. J'ai vu ce film une fois, je pense, il y a 30 ans. J'ai encore certaines scènes à l'esprit. J'ai détesté ça. Je ne peux pas regarder un film d'horreur.
Dans ce film,
je suis une pure violette fragile et je ne peux pas regarder des films
une
d'horreur.
Une petite fille disait des horreurs bien malgré elle. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive en ce moment dans cette émission. Il y a trois propositions que je vais vous faire sur ce film. Une de ces trois propositions est véridique. Dans ce film, un vrai tueur joue le rôle d'un faux infirmier. Un vrai infirmier joue le rôle d'un faux tueur. Ou un vrai tueur a joué le rôle d'un vrai tueur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce film de 1973?
Moi, je préfère la dernière. Je trouve que c'est la plus intéressante et la plus surprenante. Parce que le faux infirmier qui joue un vrai tueur, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le vrai infirmier qui joue un faux tueur, on s'en fiche aussi. Par contre, un vrai tueur qui joue un faux tueur, ça, c'est intéressant. Je réponds la 3.
Oui, vous avez bien raison. On vérifie et j'ai envie de vous faire gagner aujourd'hui.
Vous savez... perdu.
Voilà, c'est le grand chelem de la loose pour Clémentine, elle l'avait bien cherché. Non, c'est un vrai tueur qui joue le rôle d'un faux infirmier. Son nom, c'est Paul Bateson. Mm-hmm. Et dans le film, il joue un infirmier qui fait passer une radio à la petite fille possédée. 6 ans plus tard, il est condamné à 20 ans de prison pour avoir battu et poignardé un journaliste.
Ah, mais il a commis... Moi, je pensais qu'il avait commis son forfait avant d'interpréter. C'est ça
non,
qui est intéressant.
Ça s'est passé après.
Voilà, donc écoutez... Voilà,
il est libre depuis 2003, ce monsieur.
Je regrette de ne pas connaître cette intéressante information historique.
Ah, vous ne regrettez pas ce que vous avez dit sur moi?
Ah non, ça c'est autre chose.
Écoutez,
merci Clémentine.
Elle va être longue cette fin de saison.
Oui. Historiquement vôtre.
On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoine, David Castro-Lopez, Gavin Clemente Ruiz et nos personnages du jour qui se sont emmêlés les pinceaux. Après les frères Antoine, Louis et Mathieu Le Nain et leurs toiles pour lesquelles ils ne faisaient qu'un, je vous raconte Orazio et Artemisia Gentileschi, peintres de père en fille, deux artistes de renom qui ont uni leurs talents et mélangé leurs pinceaux, eux aussi. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter un couple d'artistes plasticiens, un photographe et un peintre qui fabriquent ensemble les mêmes œuvres.
Oui, et quelles œuvres ? Même sans l'image, vous allez vite les reconnaître. Je vous raconte Pierre et Gilles, deux icônes de l'art connues dans le monde entier, qui ont tiré et peint le portrait d'autres icônes, au moins aussi célèbres qu'eux. Peut-être un jour, vous y passerez,
non,
Stéphane.
Non, mais j'ai vu le portrait d'Ariel Dombal, qui est assez réussi.
Et ils ont fait aussi votre amie Mireille Mathieu.
Mireille Mathieu, enceinte, oui. Enceinte.
Là, vous avez des informations que je n'ai pas.
plus loin, sainte, S-A-I-N-T-E.
Voilà, dans un restaurant chinois. Non, c'est vrai, en plus.
C'est vrai. Non, mais... Et ils sont très amis avec elle, parce que je les ai rencontrés grâce à elle.
D'accord.
Oui.
Oh bah, il faut faire quelque chose avec vous.
Et il y a Sylvie Vartan aussi.
Oui,
ils
oui.
Ils aiment le kitsch, en fait.
Bah, merci pour Sylvie Vartan. Ça fait plaisir.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Tel père, telle fille. À la fin du XVIe siècle, un peintre donne naissance à une artiste comme lui qu'il forme dans son atelier. L'élève surpassera-t-elle le maître? Elle arrivera en tout cas à sa hauteur, si bien que les spécialistes auront du mal à déterminer à qui appartient la main qui a tenu le pinceau. Dans la famille Gentileschi, je demande la fille Artemisia et son père Orazio. Nous sommes en Italie, et vous l'avez entendu, au Museo Nazionale di Caponimonte à Napoli. Naples, évidemment. Dans l'une des salles de cet immense musée, deux visiteurs discutent devant une œuvre monumentale. C'est une représentation d'un épisode biblique, Judith décapitant Holoferne. c'est troublant de réalisme, saisissant de contraste. C'est de qui ? Facile, c'est un Caravage, annonce le premier avec fierté et même vanité. Le deuxième plisse les yeux et répond dans un murmure. Non, je pense plutôt que c'est un Gentileschi. Et je dirais même qu'il est d'Artemisia Gentileschi. En s'approchant du cartel, ce fin connaisseur découvre qu'il a visé juste. On ne peut pas en vouloir à son ami. Artemisia a été l'apprentie de son père Orazio, qui s'est lui-même inspiré du Caravage. C'est d'un coup à se mélanger les pinceaux. Et ce n'est pas la première fois qu'une des œuvres de l'artiste est attribuée à l'un ou l'autre des deux hommes. Chez les Gentileschi, rendons donc à Artemisia ce qui n'appartient pas à Orazio. Artemisia voit le jour à Rome en 1593. Son père est un peintre très respecté, originaire de Pise. Il peint à la manière du Caravage et reprend son usage du chiaroscuro, ou clair-obscur. Son réalisme, parfois brutal, et sa composition grandiose. À 12 ans, Artemisia perd sa mère, et en tant que fille aînée, c'est à elle que revient la lourde tâche d'être la matriarche de la famille. Elle gère alors les tâches ménagères et s'occupe de la maison, qu'elle ne quitte que très rarement. Mais cela lui convient bien, car dans la maison, il y a l'atelier de son père. Avec les autres apprentis, la voilà qui moud des pigments, fabrique des pinceaux et prépare les toiles. Et lorsqu'elle se met à peindre, son talent saute aux yeux de son père. Comme lui, Artemisia s'inspire du Caravage tout en développant son propre style. À 17 ans, elle réalise un premier chef-d'œuvre, Suzanne des Vieillards. C'est l'histoire biblique d'une jeune femme espionnée par deux hommes âgés alors qu'elle prend son bain. C'est son sujet de prédilection, les femmes victimes du mauvais comportement des hommes. Et elle-même va en être victime. Cette grosse ombre au tableau, on la doit à Orazio. Oui, c'est bien le père qui a poussé sa fille dans les bras d'un monstre. Je vous explique. Orazio a un confrère, Agostino Tassi, avec qui il a collaboré sur les fresques du palais du cardinal Scipione Borghese. D'ailleurs, il se peut qu'Artemisia ait participé à ce chantier en réalisant les figures de musiciennes peintes au plafond du pavillon d'été. Orazio a une très mauvaise idée. Il demande à Tassi de donner des leçons de perspective à sa fille. Est-il au courant de la réputation désastreuse de celui-ci ? En 1611, Tassi range les pinceaux pour donner à Artemisia un autre genre de leçon, terrible celle-là. Il me renversa sur le bord du lit, je la cite. En m'appuyant une main sur la poitrine, il me mit un genou entre les cuisses pour que je ne puisse pas les serrer. Il la viole en la brûlant fort et en lui faisant très mal. Ce sont les propres mots de la victime qui proviennent de son témoignage lors du procès d'Agostino Tassi. Oui, il y a eu un procès. Pas pour viol, non. Ça, on s'en moque un peu à l'époque. Mais pour stupro qualificato, c'est-à-dire défloration avec promesse de mariage. Car Tassi avait promis qu'il l'épouserait. Le procès est éprouvant. Artemisia doit passer un examen pelvien. Humiliée, elle subit ensuite le supplice des Sibylli. Une corde attachée à sa main, celle dont elle se sert pour peindre, lui broie les doigts pour voir si elle maintient sa plainte. À ce moment-là, elle se tourne vers Tassi et s'écrie « C'est donc ça l'anneau que vous m'aviez promis. Ce sont donc là vos promesses. » Condamné, Tassi ne purgera jamais sa peine. Voilà ce qui arrive quand on a de puissants mécènes. Pour éviter le déshonneur, après le procès, Artemisia épouse rapidement un gentilhomme du nom de Pierantonio Sciatesi. Le couple emménage à Florence et donne naissance à deux filles qui feront le même métier que leur mère. Je dis bien leur mère, car leur père, qui est peintre aussi, n'a, hélas pour lui, pas le talent de son épouse. Artemisia Gentileschi purge ses violents souvenirs dans sa peinture. Elle représente une histoire tirée de la Bible, Judith décapitant Holoferne. Holoferne, c'est un général assyrien envoyé par le roi d'Abuchonosor pour prendre la ville juive de Béthulie. Sur place, il tombe fou amoureux d'une jeune veuve, Judith. Il la fait venir dans sa tente. Judith, aidée de sa servante, enivre le militaire qui plonge dans les bras de Morphée. Désireuse de protéger son peuple et sa vertu, elle en profite et le décapite. Ce sujet puissant et sanglant est très prisé des artistes de la Renaissance. Mais l'œuvre d'Artemisia est l'une des plus spectaculaires. La fureur qu'on lit sur le visage de sa Judith retranscrit ce qu'elle ressent pour son propre agresseur. Elle a d'ailleurs donné les traits de Tassi à Holoferne. Vient ensuite un autre épisode biblique, celui de Yaël et Sisra. L'histoire d'une femme qui tue un général en lui plantant un piquet de tente dans la tête à l'aide d'un marteau. On devine là aussi la soif de vengeance d'Artemisia. Mais cette fois, elle donne à Sistra les traits de son nouvel amant, Francesco Maria Maringhi. Artemisia s'est séparée de son mari et sait prendre ce brillant intellectuel qui devient son protecteur, son amour béni, comme elle le dit. Maringhi la met en relation avec le savant.
Galileo, Galileo, Galileo.
Oui, oui, c'est lui, Galilée. Grâce à lui, Artemisia Gentileschi devient en 1616 la première femme inscrite à l'Accademia del Disegno, l'Académie du dessin de Florence. Les années qui suivent, elle continue à peindre à travers l'Italie, sous la protection de plusieurs mécènes, dont les puissants Médicis, mais aussi les Anglais. Oui, en 1638, sur l'invitation du roi Charles Ier d'Angleterre, Artemisia rejoint Londres où elle retrouve son père Orazio. Ensemble, père et fille peignent une allégorie du triomphe de la paix et des arts, ainsi que les plafonds de la Casa delle Delizie, dans la maison de la reine à Greenwich. Leurs pinceaux s'agitent au même rythme et les couleurs qu'ils utilisent se mélangent bien, trop bien même. Après sa mort en 1654, Artemisia Gentileschi sombre dans l'oubli. Ses œuvres sont attribuées à d'autres, au Caravage parfois, à son père souvent. Sa première œuvre, Suzanne et les vieillards, est créditée à Orazio. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'il ait supervisé ce tableau, mais ça, Dieu seul le sait. Rendons, quoi qu'il en soit, Artemisia son pinceau, celui de la première grande peintre baroque de l'histoire, une artiste qui a su s'imposer par son immense talent à une époque où les femmes n'avaient souvent pas d'autre choix que de garder la maisonnée.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Orazio et d'Artemisia Gentileschi, nous avons le plaisir d'accueillir une spécialiste de l'histoire de l'art pour qui elle n'a presque plus aucun secret. Bonjour Camille Jounot.
Bonjour Stéphane.
Camille Jounot, vous retracez près de 800 ans d'histoire de la peinture à travers une centaine de portraits des plus grands artistes dans un magnifique ouvrage, Léonard, Frida et les autres. Et parmi ces portraits, il y a celui d'Artemisia Gentileschi. Qu'est-ce qu'on sait de la relation entre le père et la fille? Vous évoquez dans votre livre la brutalité du père.
Alors, Orazio Gentileschi déjà est resté dans l'histoire comme quelqu'un qui n'est pas très sympathique de façon générale avec son entourage et avec ses apprentis, et il l'est encore moins avec sa fille. Donc, vous l'avez dit, la mère d'Artemisia meurt très jeune, donc très tôt, elle s'occupe de ses frères, et par ailleurs, elle est enfermée à la maison. Elle n'a pas le droit de sortir parce qu'il veut la protéger du regard des hommes, mais plus pour lui se protéger, protéger son honneur. Mais finalement, ça a un effet plutôt inverse parce qu'il va y avoir des spéculations sur la beauté et la sensualité de cette jeune femme et ça va finalement attiser des convoitises. Et c'est vrai que par la suite, avec le procès, on se dit que là, pour le coup, il prend la défense de sa fille, mais pas du tout, parce qu'effectivement, ça n'est pas un procès pour viol, c'est un procès parce qu'il veut laver son honneur. Donc finalement, dans leur relation, il essaye toujours de faire passer son propre intérêt avant de celui de sa fille. Et c'est après ces épisodes douloureux quand elle se marie, là, elle part à Florence et elle peut enfin se libérer de son joug.
Pour autant, il semblerait qu'Orazio admire le travail de sa fille Artemisia. Vous citez Orazio qui dit au sujet de son travail « Elle a produit des œuvres qui montrent un niveau de maîtrise que même les principaux maîtres de la profession n'ont peut-être pas atteint. »
Oui, alors c'est un père affreux, mais en même temps c'est un artiste. Et je pense qu'en tant qu'artiste, il ne peut que reconnaître le talent qu'il voit chez sa fille. Donc il reconnaît ses grandes qualités chez elle et il va les promouvoir. Il va lui chercher un mécène qui sera Christine de Lorraine, à laquelle il va écrire. Il va lui envoyer un tableau de sa fille pour lui montrer tout son talent. Et ça va permettre à Artemisia de se lancer, notamment à Florence.
Gavins,
la peinture était quand même réservée aux hommes à l'époque. Stéphane l'a rappelé, vous venez de le dire. Artemisia fait quand même figure d'exception, mais elle va aller encore plus loin. Elle peint des thèmes qui sont visiblement réservés aux hommes, hein, comme la peinture d'histoire. Il y a donc d'un côté des thèmes féminins et masculins dans la peinture à cette époque.
Alors déjà, de tout temps, les artistes, les théoriciens, les historiographes ont débattu en fait sur l'art. Il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que la sculpture est supérieure à la peinture. Et au sein même de la peinture, oui, effectivement, on a réfléchi à une hiérarchie des registres. Par exemple, dans les plus simples, la nature morte, et dans les plus complexes, la peinture d'histoire. Pourquoi ? Parce que la nature morte, on est littéralement dans l'imitation de ce qu'on voit, tandis que la peinture d'histoire, ça nécessite une mise en scène et une capacité d'invention. Et effectivement, comme il y a cette capacité d'invention, qu'il faut être virtuose, qu'il faut être un très grand artiste, et bien naturellement, on va penser que c'est fait pour les hommes. Alors ça, c'est une des raisons qui fait qu'effectivement, généralement, ce sont plutôt les hommes qui s'attaquent à la peinture d'histoire, mais il y a aussi des raisons beaucoup plus pragmatiques qui sont liées à l'éducation des jeunes femmes. Parce qu'effectivement, quand on fait de la peinture d'histoire, il faut peindre des nus héroïques. Et pour avoir accès à des nus héroïques, il faut avoir accès à des modèles, il faut connaître l'anatomie. Et bien entendu, la décence ne permettait pas aux jeunes filles de fréquenter des modèles, ne serait-ce que dans le cadre des ateliers. Donc c'est ce qui fait que finalement, on a décidé que la peinture d'histoire, c'était plutôt un genre masculin pour lequel il fallait du génie. Et qu'en fait, cette question du génie, c'est plus du travail et de l'application, et ce qui n'a pas été possible pour nombre de femmes dans l'histoire qui n'ont pas eu accès à cette même éducation.
Jean-Luc ?
Artemisia et son père Orazio sont des peintres qu'on peut classer dans le baroque, avec une grande influence du Caravage, Stéphane l'a dit. Par quels éléments se caractérisent leurs toiles ? Il y a le fameux clair-obscur, mais on imagine qu'il y a d'autres éléments forts dans leur œuvre.
Alors cette peinture, vous l'avez dit, il y a un art du clair-obscur très fort. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une lampe torche qui est braquée sur un endroit de la scène. Donc il y a une lumière et une source de lumière extérieure très forte qui donne des ombres et des lumières très contrastées. Et puis également, ce qui est notable chez Caravage et qu'on retrouve dans ses suiveurs, c'est un réalisme très très fort avec des saints, des martyrs qui ont pour modèle en fait des gens de la rue, du peuple, donc ils sont rougeaux, ils ont les ongles sales, ils ont les pieds sales également. Et il y a un réalisme très fort qui donne aussi toute sa puissance à cette peinture. C'est vraiment le profane qui épouse le sacré.
On se rend compte que les peintures d'Artemisia sont souvent violentes et sombres. Alors, est-ce que j'ai fait une analyse un peu anachronique en disant qu'elle avait été traumatisée par son viol ou est-ce que c'est une vraie façon d'appréhender son œuvre ?
Oui, alors la réponse, elle se situe un petit peu au milieu de tout ça. Et effectivement, elle a une expérience très douloureuse dans sa jeunesse qui va sans doute conditionner une partie de ses œuvres. Mais on a tendance un petit peu à systématiser cette analyse. Mmh. Et typiquement, la Suzanne et les vieillards, sa première Suzanne qu'elle fait très précocement, elle l'a fait avant son viol. Artemisia, si elle peint ses héroïnes, si elle peint ses femmes, c'est aussi parce que il y a une demande. Et en fait, c'est là où, au-delà de la femme agressée, violée, il faut aussi voir une femme d'affaires qui, sur un marché, est capable de proposer des œuvres qui correspondent à une demande. Et c'est ça aussi qui est intéressant, qu'on a tendance à ne pas voir au premier coup d'œil.
Gavin,
Orazio et Artemisia ont travaillé ensemble sur plusieurs projets, on l'a dit, notamment la peinture des plafonds de la maison Casa dei Medici en Angleterre. Est-ce qu'on sait comment cette collaboration s'est déroulée ? C'est Orazio qui a imaginé l'œuvre ou bien les deux ont travaillé de concert ?
Oui, donc la Casa dei Medici, c'est la Queen's House, la maison de la reine à Greenwich. Et effectivement, il y a eu cette commande du plafond de l'allégorie de la paix et des arts qui a été réfléchie par Orazio Gentileschi avec l'architecte du lieu. Et a priori, il s'y est mis à peu près vers 1635. Artemisia, elle arrive en Angleterre à sa demande, enfin sur la demande du roi Charles Ier, mais bien sûr qui a été encouragé par Orazio Gentileschi, au début de l'été 1638. Donc bien après, finalement. Après, la question qu'on se pose, effectivement, c'est quelle a été la contribution de l'un ou de l'autre, parce que quand elle arrive, Orazio Gentileschi est malade. Donc finalement, on ne sait pas dans quel état elle trouve l'œuvre au moment où elle arrive et on ne saura jamais vraiment quelle a été la contribution parce que ce plafond, il a été déplacé. Aujourd'hui, il est conservé à la Marlborough House. Il a été abîmé, il a été repeint, ce qui fait qu'aujourd'hui, les yeux des experts ne sont plus en mesure d'analyser quelle a été la contribution. Donc on sait juste qu'ils ont participé, mais on ne sait pas à quelle hauteur.
Pour terminer, on semble redécouvrir aujourd'hui le talent de la fille après celui du père. Qu'est-ce qui, pour vous, vaut à Artemisia Gentileschi cette reconnaissance qui est plus que tardive, hein, on peut le dire?
Oui, alors elle est tout à fait tardive. On peut l'expliquer de plein de manières différentes. Bon, la première, c'est qu'en fait, le caravagisme au XVIIe siècle, en fait, il se démode. Le Caravage ne sera redécouvert, remis sur le devant de la scène qu'au XXe siècle, au même titre que les Gentileschi. Et ça, c'est déjà une première raison pour laquelle tous ces gens-là ont été oubliés. Alors ensuite, Artemisia, elle est d'une certaine manière, une deuxième fois victime de son viol, parce qu'on va lui coller une étiquette de femme perverse et lascive. Et finalement, on va complètement oublier sa peinture. Donc ça va aussi contribuer à sa mauvaise image et au fait qu'on continue de l'oublier. Et c'est finalement à partir des années 1970 où là, on a une nouvelle génération d'historiens et surtout d'historiennes de l'art féministes qui vont se pencher sur ces questions et qui vont redonner à Artemisia la place qu'elle est censée avoir, à savoir la place d'une très grande artiste. Et c'est effectivement, plus on va travailler sur elle, plus on va découvrir des choses. Et notamment en 2011, on va redécouvrir toute sa correspondance, ce qui va permettre de combler des lacunes historiques dans sa biographie et aussi de lui attribuer avec certitude plusieurs de ses œuvres.
Ben formidable. Merci beaucoup, Camille Jounot, d'être venue avec nous sur ce père et sa fille devenus des références dans l'art de la Renaissance. Je rappelle l'ouvrage que vous venez de publier, dans lequel on peut retrouver les éléments qui caractérisent la peinture d'Artemisia Gentileschi, mais aussi de bien d'autres peintres, puisque là, vous retracez 800 ans d'histoire de la peinture. Léonard, Frida et les autres, un magnifique ouvrage paru aux éditions du Chêne. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz, on réunit des personnages qui sont emmêlés les pinceaux. Après Antoine, Louis et Mathieu Le Nain, et Orazio et Artemisia Gentileschi, vous nous racontez, Jean-Luc, un couple dont les œuvres interpellent, choquent, provoquent et font parfois simplement rêver. Vous allez nous parler de Pierre et Gilles.
Quand on n'a pas la chance de faire partie d'une famille d'artistes et qu'on ne veut pas travailler seul, il reste toujours une solution. On peut former un duo.
Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne.
Non, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Peter et Sloan, mais d'un duo toujours fusionnel, presque 47 ans après le début de leur collaboration, Peter et Jill. Plus communément appelés Pierre et Gilles.
J'ai roulé dans tes doigts des colliers de varech.
Vous reconnaissez cette musique ?
Non.
Un autre duo, Mikado, parti trop tôt.
Oui.
Et une musique à ne pas écouter au volant sous risque de somnolence. Une espèce d'ASMR musical qui rentre dans vos oreilles pour vous masser l'intérieur. Mais surtout un clip à l'esthétique unique, celle de Pierre et Gilles, les Michel et Augustin de l'art visuel. Car oui, Pierre et Gilles développent depuis 1976 une œuvre originale entre photo et peinture, en parfaite complémentarité. Pierre prend les photos, puis Gilles peint dessus. Longtemps jugés kitsch, leurs œuvres sont aujourd'hui cultes. Que ce soit Lio en Madone qui pleure ou Jean-Paul Gaultier dans sa marinière avec un bouquet de marguerites, tout le monde connaît leurs photos. Stéphane, vous qui êtes chauvin, je suis sûr que votre préférée c'est celle des footballeurs avec des chaussettes bleu, blanc, rouge.
Et 1, et 2, et 3,
ils avaient fait Yvette Horner aussi, je crois.
Ne changez pas de sujet.
Non.
Ils ont fait évidemment Yvette Horner. Mais...
en bleu, blanc, rouge. C'est le bleu, blanc, rouge qui m'y fait.
C'est ça, magnifique photo. En effet, il y avait trois paires de chaussettes mais aucun autre vêtement.
Petit ah aucun. Bon
non, il n'y avait rien d'autre. Hein, ouais.
Mais les chaussettes étaient aux pieds.
Au pied, en tout cas.
Et les mecs, ils avaient accepté de poser, les footballeurs.
Ah, c'était pas des vrais footballeurs. Ah, par oui, contre, oui, c'était oui. Des vrais Dizzy. Pierre est né à La Roche-sur-Yon en 1950 et Gilles au Havre en 1953. Ils se rencontrent à Paris en 1976, à une fête d'ouverture pour la boutique Kenzo. Un ami commun les présente en disant « Vous parlez aussi peu l'un que l'autre, vous allez bien vous entendre. » Coup de foudre immédiat. Rapidement, ils travaillent ensemble pour le magazine très branché Façade. Le matin où ils viennent photographier Iggy Pop, il le trouve au lit avec une fan, un peu comme Stéphane après chaque enregistrement de Secret d'Histoire. À votre avis, en trouvant Iggy au lit, que font-ils ? Ils lui ont fait couler un bain, ils lui ont beurré sa tartine. Tant qu'à avoir des souvenirs, ils ont proposé à la fan de poser avec lui. Ils ont enfilé une chemise à Iggy vite fait et ont fait des portraits de lui alors qu'il avait toujours les fesses à l'air.
Moi j'aurais dit
sans lire Stéphane
deux
c'est-à-dire ah, les...
non mais surtout moi je serais parti, j'aurais dit excusez-nous on reviendra plus tard.
Ah bah oui, non mais Iggy Pop était très 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 à l'aise, ce qui fait que on lui a mis une chemise et il a posé les fesses à l'air toute la séquence. C'est donc la troisième proposition, le cucu en liberté. En même temps on le comprend, c'est fatigant de chercher son slip quand on n'est pas bien réveillé. Et c'est peut-être à ce moment-là que le duo a réalisé que leur modèle n'avait pas toujours besoin d'être habillé pour avoir du style. Ils enchaînent alors les photos avec Mick Jagger, Dali, Andy Warhol et vont tous les soirs au Palace. La boîte mythique du début des années 80. Là, ils fréquentent le tout Paris branché, Yves Saint Laurent, Grace Jones, Roland Barthes. Alors qu'à la même époque, au Mimi Pinson de Gilles Furivette, on pouvait tout juste apercevoir le sosie officiel d'Hervé Villard, Hervé Billard, en train de boire une vodka orange.
Reviens, on va vivre la main dans la main.
Ouais, pas vraiment la même ambiance, même si on reste main dans la main. Gilles a toujours eu une passion pour les photomatons qu'il collectionne, et un jour, le duo décide de faire en studio des photos de leurs amis dans cet esprit. Mais les tirages sont trop ternes à leur goût. Alors Gilles a l'idée de repeindre dessus. La marque de fabrique Pierre et Gilles est née. La première collaboration qu'il révèle au grand public, vous vous en souvenez sans doute, est la fameuse pochette d'Étienne Dao. Le chanteur leur demande une photo sur fond orange façon chanteur country avec un harmonica. Il se retrouve en marinière avec sur l'épaule Bibic, le perroquet vert du couple. Pas grave, il était content quand même Étienne, hein, même si après il était faire ses pochettes ailleurs. Bibic, lui, par contre, il était vachement vexé parce que tout le monde a cru qu'il était empaillé. Pour le style, les inspirations de Pierre et Gilles font un grand écart facial entre leurs anciens cours de catéchisme et la pornographie.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement.
Des madones, des saints, des personnages mythologiques, des sirènes, des hommes nus et des marins. Beaucoup de marins, le thème fétiche des deux artistes. Pour l'esthétique, c'est Bollywood avec ses décors chargés, ses dorures et ses couleurs clinquantes, mais sans les nains de fromage. Et tout ça de façon totalement artisanale. Alors que vous, Gavins, ça vous prend 3 secondes pour nous envoyer une photo de vous en croque-monsieur avec un filtre Snapchat. Eux, ça leur prend des semaines pour réaliser une œuvre, puisque dans leur atelier du Pré Saint-Gervais, ils fabriquent le décor grandeur nature. Ils choisissent les costumes, les maquillages, les accessoires. La photo de Pierre est ensuite reportée sur une toile que Gilles va magnifier avec sa peinture. Pour rendre tous les détails plus éclatants, mais aussi les traits plus doux, plus lisses, c'est magique. Résultat, toutes les stars se bousculent à l'entrée de leur studio. Non seulement leur photo sera unique, mais en plus elles pourront se vanter d'avoir l'air hyper jeune sans avoir été photoshopées. Parmi les chanceuses, il y a Nina Hagen, ligotée sur une chaise en combinaison de latex, Sylvie Vartan, costume militaire, Kylie Minogue, en nonne sur un cheval de bois, et même Juliette Armanet en Jeanne d'Arc. Ça aussi, c'était une pochette de Pierre et Gilles, Alain Chamfort. Comme ils ont beaucoup d'humour, ils font aussi de nombreux autoportraits au fil des ans, en saint, en cosmonaute, en marin, en marié, ou encore en gilet jaune. Oui, car derrière leur air léger et populaire, les œuvres de Pierre et Gilles ont une dimension politique et parlent de précarité, de tolérance, de mixité raciale et d'écologie. Et c'est vrai que c'est plus accrocheur de parler de pollution en montrant un arlequin torse nu sur un tas de déchets dans le port du Havre qu'un cormoran mazouté. Puis il faut avouer qu'avec un Jésus qui porte un filet de pêche en guise de cache-sexe et un Saint-Sébastien vêtu d'un jean moulant entrouvert, je crois qu'ils auraient fait guiller bien des cours de catéchisme.
Dominique et Nicanique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres chantants.
Merci beaucoup Jean-Luc.
Mais je vous en prie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui se sont emmêlés les pinceaux pour retrouver deux garçons qui gardent chacun leur spécialité. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines d'un jour particulier, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Je suis sûr que vous l'avez fait exprès.
Je l'ai complètement fait exprès, c'est le vendredi 13. Mmh. Mmh.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque! Aujourd'hui, on part à la découverte avec vous, Gavin Clemente Ruiz. On remonte au XVIIe siècle pour découvrir un culte étrange venu de l'île de Pâques.
Exactement, Stéphane. Le culte du Manutara, c'est le nom d'une hirondelle de mer, ou la compétition qui l'accompagne surtout, celle qui consistait pour le chef de la tribu qui gagnait cette compétition à devenir homme-oiseau une année entière et à acquérir des pouvoirs presque divins. Ça se passe sur l'île de Pâques, on l'a dit, ou Rapa Nui, comme on dit là-bas. Située en plein Pacifique, on est à mi-chemin entre le Chili et la Polynésie, qui est une petite île qui n'est pas très grande, 23 km de long, 12 km de large, et qui est surtout connue, qu'on voit partout, pour ses fameuses statues, ou plutôt ses colosses de pierre, les fameux Moai.
Vous dites colosses, mais ils s'élèvent à combien de mètres de hauteur
C'est assez grand, hein, entre 1,13 m et 9,80 m de haut. La plus imposante statue mesure 21,6 m de haut. C'est assez précis. Pour un poids estimé, alors attention, entre 160 et 180 tonnes, quand on voit ça comme ça de loin, on n'imagine pas. On en compte environ 900. Et à l'origine, eh bien, ces statues, elles suivaient la course du soleil pour honorer les ancêtres des habitants de l'île. Et le culte de ces statues de pierre a été assez vif, on va dire, entre le XIIIe et le XVe siècle. Et il a été tout doucement remplacé.
C'est-à-dire que le culte des ancêtres a changé sur l'île de Pâques.
Exactement, c'est ça. C'est au XVIIe siècle, donc on se met à vénérer le fameux homme-oiseau, comme on atteste encore aujourd'hui sur l'île des pétroglyphes. hiéroglyphes, j'aime bien ce mot, ça fait trois fois que je le dis dans cette chronique, ce sont des dessins gravés dans la pierre, très fragiles, qui nous donnent en fait quelques informations sur ce culte très particulier. Ce culte de l'homme à oiseau a progressivement renversé le culte des Moai.
Et en quoi consistait ce culte de l'homme oiseau ?
Déjà, il faut savoir que ça se déroulait à Orongo. C'est à la pointe sud-ouest de l'île. C'est là qu'on a retrouvé 53 maisons basses qui servaient qu'au moment du culte. On est au bord du cratère de Ranaukao. Et ce culte, eh bien, il comptait différentes épreuves. Durant plusieurs mois, le point final des épreuves était cette vraie compétition entre les hommes les plus vaillants de chaque tribu de l'île. C'est ça, exactement. On se croirait dans Koh-Lanta. Il s'agissait pour le Opumanu, comme on nommait cet homme vaillant, d'aller à la nage à près de 2 km vers les îlots de Motunui, Motuiti et Motukaokao. Ce sont les noms locaux. On est au milieu des rochers, on est au milieu des requins aussi en pleine mer. Et on va chercher le premier œuf de la saison qui a été pondu par l'hirondelle de mer, Manutara, ou sterne fuligineuse, comme on dit en termes plus techniques. C'est un oiseau qui fait 40 cm de long, il est noir et blanc, et il vient pondre là, sur ces petits bouts de cailloux, à 180 mètres de haut, et il faut rapporter cet œuf, tout ça, sans le casser, c'est ça la vraie condition. Bien sûr, il faut le ramener sur la terre ferme.
Ça relève de l'expo, en effet, une fois rapporté. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, on ne fait pas d'omelette, Jean-Luc, comme vous souhaitiez le savoir tout à l'heure. Oui, le vainqueur était désigné Tangamatu Manu. Alors, ça veut dire quoi ? Homme oiseau. Et il se réfugie dans une grotte jusqu'à la célébration suivante, l'année suivante, tout en se rasant la tête, sans pouvoir voir d'autres êtres que des prêtres qui viennent le nourrir. Et il permettait ainsi à toute sa tribu de prendre en fait l'ascendant sur les autres tribus de l'île, d'être en quelque sorte le roi de l'île pendant toute une année.
Mais on sait pourquoi on vénérait cet oiseau plus qu'un autre, et surtout pourquoi aller vers ces îlots ?
Eh bien, Jean-Luc, parce qu'on raconte que c'est le dieu Makemake. On dit tout en double, que c'est le dieu Makemake, le créateur de l'univers, qui aurait fait venir ces hirondelles de mer sur ces îlots au large de l'île de Pâques. Et en accomplissant cet exploit, eh bien, en quelque sorte, on vénérait ce dieu.
Mais on ne le vénère plus, le culte a cessé.
Eh bien, en fait, il s'est arrêté à la fin du 19e siècle, avec l'arrivée des explorateurs qui ont importé avec eux le christianisme. La compétition n'existe plus. Par contre, le culte de l'homme-oiseau porte-bonheur continue bien dans les rites de la vie quotidienne de l'île. C'est même devenu une marque. Alors, il y a une marque d'eau minérale, une compagnie aérienne. Et depuis 1975, avec le festival Tapati au printemps, qui se déroule tous les ans, on célèbre un peu plus cet héritage. Il y a des épreuves en costume traditionnel qui renouent avec ce passé mythique. Depuis 2013, on part à la nage, comme les ancêtres autrefois, pour devenir homme-oiseau. Ça se passe tous les ans, en février. Et je vous ai inscrit, Stéphane.
Non, je vous remercie.
Vous ne voulez pas ?
Je me réserve pour des festivals moins sportifs, notamment là où il y a moins de requins. Mes aïeux, quelle époque ! Merci beaucoup, Gavins.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Oui, pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavins Clemente-Ruiz, et maintenant avec vous, David Castel-Lopez, puisque vous nous racontez le vendredi 13.
Tout à fait. Moi, j'adore dire de moi-même que je suis un être ultra rationnel, sa race, que je ne crois qu'en la science et que quand il n'y a pas de science pour expliquer un phénomène, j'accepte le mystère sans essayer de combler mon ignorance avec des systèmes ésotériques. J'adore dire ça, mais je suis obligé d'être un petit peu honnête, je ne suis pas aussi rationnel que je le dis et en particulier, je suis légèrement superstitieux. Pas superstitieux hardcore, mais superstitieux léger. Je touche, par exemple, du bois quand j'évoque ma propre mort. Et d'ailleurs, je vais le faire immédiatement. Je passe pas sous les échelles. J'ouvre pas de parapluie en intérieur. Ou si je le fais, je conjure la malédiction en l'ouvrant et en le fermant trois fois, etc.
Ah oui, vous êtes vraiment superstitieux.
Oui. Bon, alors attention, je pense pas que toutes ces choses que je fais, elles ont une influence sur mon sort. C'est plutôt que je me dis... qu'est-ce que ça coûte de toucher du bois ? Vous voyez, c'est franchement rien du tout. Et puis, on sait jamais. Vous voyez, ça coûte rien à faire. On fait tac-tac comme ça. Et puis, si par hasard, on n'a pas très bien compris que ça a une influence, au moins, on mourra pas. Bon, j'avoue qu'il m'arrive de me retrouver dans des situations où il n'y a pas de bois autour de moi. Et donc, je cherche du bois pendant un petit moment, quelquefois une petite minute, et je peux m'interrompre de faire ce que je suis en train de faire, interrompre mon travail, moi, tout simplement, pour aller toucher du bois. Et enfin, j'avoue qu'il m'est arrivé souvent dans ma vie de jouer à des jeux d'argent, spécifiquement les vendredi 13, en me disant que j'avais peut-être plus de chances que gagner, de gagner, pardon, ce qui est 100% faux. Hein, voilà, on n'a pas du tout plus de chances de gagner un vendredi 13. Et pourtant, je ne suis pas du tout le seul à penser que le vendredi 13 porte chance. Les vendredis 13, la Française des Jeux, elle enregistre de 2 à 3 fois plus de joueurs qu'en temps normal. Peut-être d'ailleurs vos jeux à gratter, Stéphane, sans du patrimoine.
Mais il y a peut-être une raison, si la cagnotte est supérieure le vendredi 13, non ?
Peut-être effectivement aussi. Bon, aussi, il faut évoquer tous les gens qui pensent que le vendredi 13 porte malheur. Parce qu'il y en a qui pensent que ça porte bonheur, d'autres que ça porte malheur. Et tout ça, ça donne envie de savoir pourquoi on attache des croyances au vendredi 13. Et pour ça, il faut séparer les croyances attachées au nombre 13 et les croyances attachées au vendredi. Alors d'abord, le nombre 13. Bon, ça vient sans doute du fait que dans l'Antiquité, le nombre 12, il était synonyme d'harmonie et de perfection. Il y a 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 mois dans l'année, 12 travaux d'Hercule. Et du coup, le nombre 13, ça a commencé à représenter la rupture de cette harmonie. Alors vous allez me dire, pourquoi pas 11, connard, voyez ? Et je vous répondrai, je sais pas, arrêtez de poser des questions reloues et soyez polis. Vous le savez, il y a plein de choses dans l'Antiquité qui ont été absorbées par le christianisme. Et le 12 en fait partie. Il y avait notamment 12 apôtres autour de la table lors du dernier repas de Jésus, jusqu'à ce qu'un 13e arrive. Et ce 13e, c'était qui ? C'était Judas. Et ça explique la croyance populaire qui veut que si on est 13 à table, eh bien quelqu'un va mourir comme Jésus. Et maintenant, pourquoi est-ce que le vendredi est problématique ? Alors déjà, le vendredi dans le monde romain, c'était traditionnellement le jour des crucifixions. Jésus a donc été crucifié un vendredi, ce qui peut suffire à expliquer pourquoi on dit que c'est pas un jour cool. Mais il y a probablement une autre explication. Chez nous, le vendredi, vous le savez, c'est le jour de Vénus. C'est pour ça qu'on dit vendredi. Mais en anglais, vendredi, ça se dit Friday. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça ne vient pas de Vénus, mais de Frigga, qui était une déesse scandinave. Or, les chrétiens, quand ils ont évangélisé les peuples nordiques au Moyen-Âge, ils ont complètement diabolisé cette déesse Frigga, en la représentant souvent comme une sorcière à table, en train de manger avec 11 autres sorcières et le diable, soit 13 personnes. Donc le vendredi, comme jour de malchance, c'est peut-être lié à la répression d'une croyance païenne en la déesse du vendredi qui s'appelait Frigga. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que le vendredi, on considère aussi quelquefois que c'est un jour de chance ? Ce qui est contradictoire à ce que je viens de dire. Eh bien probablement à cause de la croyance païenne réprimée. Le Friday, jour de Frigga dans le monde païen, c'était un jour qui exaltait la fertilité, le faste, le mariage. D'où vendredi égale sympa. Et moi, c'est ça que je retiens, vendredi égale sympa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai joué au loto. J'ai joué au loto. Et vous savez quels sont les chiffres que j'ai joués, Stéphane ?
Non.
J'ai joué votre date de naissance. Le 15 mars 1978.
Vincent, c'est pas ma date de naissance et vous avez bien fait.
Non. J'ai joué votre vraie date de naissance qui n'est pas le 15 mars 1978, oui. Qui est le 14 novembre d'une autre date,
voilà, peut-être.
Un petit peu plus ancienne.
Oui, mais
on va pas s'attarder
là-dessus. 78, ça marchait pas.
Il y a prescription. On ne parle plus.
Le tirage est ce soir à 20h20. Il y a 13 millions d'euros à gagner. Hein, je vous tiens au courant. Je vous en donnerai peut-être une petite partie. On se fera une bouffe si je gagne.
Si vous gagnez avec ma date de naissance, oui.
Oui,
je vous en revendique partie. Quand même une partie.
Tout à fait, vous avez raison.
Il ne perdra rien, lui.
Non, mais au moins, on fera un bon gueuleton. Voilà. Ben, merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont le sourire. La peintre Elisabeth Vigée-Lebrun, qui fut la première à présenter des visages souriants en peinture, et le sien en premier. Puis l'acteur Conrad Veidt, qui était l'homme qui rit au cinéma, un personnage au sourire angoissant qui a inspiré le Joker dans Batman. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un artiste qui rit lui aussi aux éclats.
Oui, l'artiste chinois Yu Minjun, qui se représente hilar sur ses toiles et ses sculptures, dans un monde qui est beaucoup moins drôle qu'on pourrait le penser, vous verrez.
On verra ça lundi. À lundi, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.